Le burn-out, il a été défini en 1974 par un psychothérapeute qui travaillait dans un centre d'accueil d'addictologie. Donc, il encadrait des soignants. Et il a observé que les soignants venaient avec beaucoup d'enthousiasme quand ils intégraient leur fonction, et qu'au bout de quelques mois à un an ou deux ans, cet enthousiasme s'effondrait et ils montraient une forme d'épuisement. Donc c'est ce qu'il a appelé, c'est ce qu'on a appelé le burn-out. Ce qu'on observe, c'est que les ressources internes se consument comme sous l'action des flammes. En fait, ça va être approfondi par les personnes qui vont témoigner. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Moi, en fait, ce que je voudrais, c'est juste vous présenter comment survient le burn-out. Il survient après une phase de stress chronique. Le stress chronique, c'est ce qui résulte après une période de plusieurs semaines, plusieurs mois d'activation. On a un système d'adaptation qui est très bien fait pour s'adapter dans des périodes brèves, et qui n'est pas fait pour s'adapter dans une période de plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui conduit à un épuisement. On va regarder d'un petit peu plus près de quoi il s'agit. Là, vous avez une personne à qui on demande un petit peu plus que d'habitude. Ça nous arrive régulièrement, ça nous est peut-être déjà arrivé dans la journée ou la semaine dernière. On sait tous faire, on met en jeu le système d'adaptation et ça se passe très bien. On est équipé pour ça. Là, vous avez quelqu'un à qui on demande beaucoup plus de façon récurrente, continue. Il n'a pas le temps de récupérer entre chaque phase d'activation. Il est en stress chronique. Il n'est pas encore en burn-out, il est en stress chronique. Dans quelques mois, l'année prochaine, il sera en burn-out s'il n'y a pas quelque chose qui lui permet de lever le pied, de prendre un petit peu de recul. Voilà ce que c'est en fait la trajectoire du burn-out. La définition du stress, ce qui conduit au stress chronique, je vous la redonne, vous la connaissez sûrement déjà. Donc la définition de l'agence européenne, c'est en fait ce qui survient, c'est l'activation qui survient chaque fois qu'on évalue qu'on n'a pas les ressources pour faire face aux contraintes. C'est un système qui est très bien fait. Le cerveau examine les contraintes et les ressources. Ça a été mis au point il y a quelques centaines de milliers d'années. Nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils avaient comme contrainte ou comme menace? C'était une menace physique, c'était soit un prédateur, soit un ennemi. Et il fallait se battre ou partir en courant. Donc le système d'adaptation, c'est un système d'adaptation pour un effort physique violent, se battre ou partir en courant. Il passe par des hormones, ce qu'on appelle les hormones du stress, que vous connaissez tous, hein, c'est l'adrénaline. Tout le monde connaît ce mot-là. L'adrénaline, elle va préparer le cerveau, le cœur, les muscles à l'effort physique violent. Donc elle va augmenter la vigilance, ça c'est très bien pour voir où est passé le prédateur. Elle va augmenter la fréquence cardiaque, la pression artérielle, pour envoyer plus d'oxygène au niveau des muscles, parce qu'ils vont en avoir besoin pour se battre, pour partir en courant. Il y a une très bonne oxygénation musculaire. Voilà ce que c'est que le stress aigu. Le corps est prêt pour un effort physique violent. Si ça dure un petit peu longtemps, il y a une deuxième hormone qui peut prendre le relais et qui notamment va envoyer du sucre au niveau des muscles. Elle va le prendre dans les réserves de protéines, elle va modifier un petit peu le métabolisme. C'est très bien fait pour courir longtemps, se battre longtemps. On est équipé pour, mais quand on dit longtemps, ça veut dire quelques heures ou à la limite quelques jours. C'est ce qu'on appelle la réponse adaptative. Elle est en équilibre, c'est-à-dire que le cerveau va vérifier qu'il y a le bon niveau de cortisol et il va maintenir l'alarme, le niveau d'alarme constant, et on peut tenir effectivement quelques jours, voire quelques semaines. Simplement, au bout d'un certain temps, ce système de régulation il va s'user. Le cerveau va avoir l'impression qu'il n'y a plus assez de cortisol, les récepteurs ne fonctionneront plus de façon satisfaisante. C'est comme si le frein lâchait. Le cortisol, dont je vous disais, il prépare un effort physique un petit peu prolongé en récupérant dans les ressources énergétiques, en récupérant ce qui peut se transformer en sucre et en l'envoyant au niveau des muscles. C'est toujours les muscles qui sont demandeurs, hein, d'oxygène ou de sucre. Donc, au bout d'un certain temps, tout ça, ça va avoir un impact sur la santé qu'on peut déduire de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire un problème au niveau de la fréquence cardiaque, au niveau de la pression artérielle, hein, on a vu pourquoi. Peut-être un problème au niveau métabolique, puisqu'il est modifié le métabolisme pour envoyer du sucre au niveau des muscles. Et si ça dure longtemps, le système d'adaptation finit par entraîner des déséquilibres au niveau de la santé. Donc on va avoir des troubles du sommeil. Vous vous souvenez, l'adrénaline augmente la vigilance. Donc si elle peut l'augmenter pendant quelques heures, c'est tout à fait satisfaisant si on est face à un ennemi ou un prédateur. Si elle l'augmente pendant des jours ou des semaines, on dort moins bien. On peut avoir des conséquences psychologiques, donc rumination, dépression, des céphalées, des attaques de panique, une hypersensibilité au bruit, à la lumière. Il y a aussi des troubles de l'immunité, des troubles cardiaques, je vous l'ai dit, des troubles digestifs, parce que pour favoriser les muscles, il faut défavoriser d'autres secteurs dans le corps, notamment le système digestif. Des douleurs ostéo-articulaires et musculaires, parce qu'on est prêt à bondir, puisque à l'origine on était prêt à affronter un stress physique. Donc prêt à bondir, ça veut dire la tête qui rentre dans les épaules, et ça veut dire mal à la nuque, tout le monde connaît. Je vous disais donc hypertension artérielle, les troubles endocriniens, le diabète, puisque effectivement il faut envoyer du sucre au niveau des muscles. Et puis une fatigue intense et persistante, et un vieillissement qui est accéléré. Et peut-être des rechutes de maladies chroniques, cancer, maladies inflammatoires. Voilà, donc on n'est pas fait pour rester très longtemps dans l'état de stress chronique. C'est pas fait pour ça. Le système d'adaptation n'est pas fait pour ça. Il y a aussi un impact sur le comportement, des troubles cognitifs, c'est-à-dire qu'on va avoir des troubles de concentration, des troubles de mémoire, des difficultés à prendre des initiatives ou des décisions. Des troubles relationnels, puisqu'on va soit aller vers l'isolement, soit être plus agressif, moins patient, des modifications des conduites alimentaires, des addictions, consommation de psychotropes en automédication, ça peut encore compliquer les choses, idées suicidaires, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent être intercurrentes. Donc je vous disais, en fait, au bout d'un certain temps, le frein va lâcher. Le cerveau va croire qu'il n'y a pas assez de cortisol, il va monter l'alarme et il va suractiver l'organisme. Et donc là, on voit que ça devient un cercle vicieux et quelque chose qui va s'aggraver tout seul et qui va conduire à l'épuisement. C'est à partir de là qu'on parle de burn-out. Et là, en fait, c'est quelque chose qui est grave parce qu'il n'y a plus de régulation et ça ne peut que s'aggraver tout seul si on n'intervient pas, si on ne protège pas, si on ne se protège pas. Voilà, donc je vais passer la parole à Annabelle, qui est une des psychologues de l'équipe et qui va vous expliquer un petit peu plus en profondeur ce qui se passe au niveau du quand on est en phase de burn-out.
Bonsoir, donc je suis Annabelle Bétizot, une des nombreuses psychologues actives de l'EPAS. Donc la définition actuelle, officielle, on va dire, du burn-out, elle est composée de 3 items. Donc on peut parler de burn-out quand on a ces 3 items. Qui sont donc d'abord un épuisement physique et émotionnel. On fera plus tard le distinguo avec ce qu'on appelle la dépression, parce que souvent il y a des confusions. Donc épuisement physique et émotionnel lié au travail, donc ça reste à prouver, mais c'est très important que ce soit quand même la base de la définition, avec un état de, qu'on appelle de dépersonnalisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne se retrouve en perte d'empathie. Alors pourquoi cet item? C'est que, comme l'a dit ma collègue tout à l'heure, c'est que les premières définitions de burn-out, les premiers cas objectivés, ont été auprès des soignants. Et les soignants, s'ils n'ont pas d'empathie, ça peut poser souci quand même. Voyez, il n'empêche qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où on n'a pas besoin d'un minimum d'empathie, parce qu'il y a beaucoup de métiers où il y a un contact client, contact collègue au minimum. Donc de toute façon, c'est des phénomènes. Donc la dépersonnalisation, c'est un phénomène qu'on retrouve très fréquemment. C'est une forme de cynisme chez quelqu'un qui n'est pas cynique, qui est plutôt bienveillant de fait. Voilà. Donc moi j'appelle ça le mode hérisson, ce qui vient donc confirmer la souffrance première, on va dire, si ça vous va. Et ce qui vient confirmer la souffrance première, c'est aussi le troisième point, qui est de toute façon la dégradation, pour ne pas dire la perte totale, du sentiment d'accomplissement au travail. Il n'y a plus aucun plaisir. Plus qu'une simple démotivation, c'est une absence de sens et de plaisir, pour ne pas dire du déplaisir, à aller au travail. Vous comprenez bien que quand on a les 3, ce n'est pas bon signe. Donc après, c'est une vraie définition. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de symptômes associés, d'où l'intérêt d'avoir nos témoignages ce soir. Voilà, donc on va rentrer un petit peu dans les détails. L'idée que je voudrais aussi vous dire, c'est que souvent, avec ces 3 points, nous avons des conduites d'évitement phobiques, liées au travail. Et le mot phobie n'est pas galvaudé, n'est pas surajouté. C'est vraiment aussi fort que le sentiment d'une vraie phobie, une vraie peur. Le mot travail, même des fois, devient un mot source d'angoisse, même prononcé. Voilà. Donc, après, il y a différentes phases, même si le jour où le burn-out se révèle, ça peut être un jour J très net, très marqué, voilà, un effondrement précis à date précise, mais c'est quand même un processus. Ça, on voudrait vraiment que vous reteniez cette idée-là également. Donc, au début de ce processus, il y a de toute façon un surengagement. On a de temps en temps des auteurs qui se disent spécialistes du burn-out qui disent qu'il n'y a pas toujours des gens hyper engagés au travail. Nous, à l'EPAS, on se porte en faux contre cette idée-là. On n'a rencontré que des gens hyper engagés au travail. Voilà. Hein, je crois que vous êtes d'accord. Donc, le surengagement, donc, c'est au-delà de 6 mois. C'est quand même une durée minimum nécessaire. Et vous avez bien compris avec ce qu'a dit précédemment Madame Lanoir que de toute façon, 6 mois à l'adrénaline, ça n'est pas possible. Cortisol non plus. Donc à un moment donné, on tient le coup, on tient avec le mental, tandis que le corps, lui, risque de craquer tôt ou tard. Souvent, on a un discours à ce moment-là, à ce stade du processus, qui est un discours de déni par rapport à la difficulté même. Souvent, on a des collègues, des personnes, des proches qui s'approchent de la personne, qui disent « ça n'a pas l'air d'aller, tu ne vas pas tenir comme ça ». Et la personne, en pré-burn-out, parce qu'on va dire, ne peut pas reconnaître cette difficulté-là. Ça fait même partie, voilà, on peut dire que le déni fait partie du processus, presque. Un déni partiel, parfois. Sauf qu'à un moment donné, arrive le moment de rupture, nous on appelle ça le ressort cassé. On ne peut plus travailler, alors ça s'impose à la personne. Généralement, il y a des témoignages qui nous racontent un jour J, ils n'ont plus réussi à se lever le matin, des symptômes physiques épouvantables, voilà, une sorte de vrai effondrement psychique et physique. Donc émotionnel, ça peut être les crises de larmes, la fameuse expression « péter un câble » qu'on entend de plus en plus. Ce n'est pas forcément si bruyant que ça non plus, je vous rassure. Tout le monde ne se jette pas contre les murs. Il n'y a pas que des tentatives de suicide dans ces moments-là. Il y a aussi des gens qui s'effondrent en silence, voilà, dans leur bureau, sans témoin, on va dire. Hein. Il ne faut pas non plus que vous ayez que la caricature en tête. Mais en tout cas, l'angoisse est massive ce jour-là. On pourrait dire ça comme ça. Et le corps lâche, on va revoir un petit peu. On commence à avoir une vision un peu plus précise. On a des arrêts de travail, alors quand ils sont possibles, hein, de 1 à 3 ans. Ce qui est très long, ce qui n'est pas très long des fois au regard de l'histoire de la longueur du processus. Là, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais quand c'est surajouté à du harcèlement, quand vous avez été harcelé 5 ans, voire 10 ans, en tout cas dans des surmenages de 5 à 10 ans, un an d'arrêt de travail, ça ne me semble pas si disproportionné que ça. Je vous laisse réfléchir là-dessus. En tout cas, voilà, un cercle vicieux est à l'œuvre, je dirais. Donc l'épuisement, la fatigue physique et émotionnelle, des sentiments qui naissent, donc d'inefficacité, et puis la démotivation, pour ne pas dire un sentiment d'échec. Tout ceci crée une baisse d'efficacité concrète. On a des gens qui, de toute façon, voilà, ne sont plus en état de produire, voire même commencent à faire des erreurs, d'où l'intérêt de l'arrêt de travail aussi, nécessaire de fait parce qu'il y a des symptômes graves, mais aussi pour que les gens ne s'exposent pas, je dirais, à faire des erreurs. C'est aussi ça, des fois, qu'on est obligé d'expliquer. Des symptômes d'irritabilité, d'isolement, et donc tout se dégrade. C'est une sorte de cercle vicieux, je disais. Tout se dégrade, le repli sur soi s'accélère, et il n'y a plus rien qui fait ressource, on va dire, au travail, et même dans la vie à côté. Ça, je l'ai mis. Hop. Et vous voyez, le tour de la boucle hein, peut être exponentiel, donc les troubles du sommeil apparaissent assez rapidement, vous allez voir. Alors, qui est touché ? Là aussi, on voudrait casser certains préjugés. Les plus touchés sont ceux ou celles qui sont parfois les plus forts, et non pas les plus faibles ou les plus fragiles. Parce que ceux-là, bah, ils ne seraient pas surengagés au travail. Donc, le seul tort, si c'en est un, c'est peut-être d'être des personnes qui ne s'écoutent pas assez. Ils ne se plaignent pas, ce n'est pas du genre justement à crier sur les toits leur souffrance, ou à dégainer très très vite une plainte. C'est des gens qui n'ont pas dans un discours de plainte, justement, peut-être à tort. Donc nous, on appelle ça un profil de type fort. C'est des gens, paradoxalement, qui gèrent bien le stress aigu. C'est des gens, des fois, qui ont fonctionné toute une carrière, qui ne se sont pas effondrés au premier stress, loin de là, mais qui, justement, peut-être, se méconnaissent dans leurs limites. On va le voir au fur et à mesure. Donc ils ont déjà, plein de fois, des fois, fait face à des lourdes situations de charge de travail sans aucune difficulté.
D'ailleurs, c'est bien le problème, on va le voir, ils ont une identité, ils sont identifiés par les proches, par les collègues, comme quelqu'un de fort, quelqu'un de fiable. D'ailleurs, le jour où ils craquent, hein, c'est toi tu craques. Mais alors nous, qu'est-ce que ça va être ? Bon. Donc ils ne demandent pas d'aide, ça c'est peut-être le seul tort qu'ils ont, et le contrôle, effectivement la perte de contrôle est progressive. On va redéfinir plus tard ce qu'est le perfectionnisme, qui est quand même un trait qu'on retrouve souvent, mais qui n'est pas un trait si négatif que ça pour l'entreprise, hein, qui généralement ne s'en plaint pas trop du perfectionnisme de ses salariés. Donc l'exigence envers soi-même, on va le reprendre tout ça. On a essayé de cartographier, même si c'est très dense à définir, tous les facteurs favorisants, alors non pas la personne elle-même, mais le contexte dans lequel elle progresse au travail. Alors en haut à droite, on a mis un petit peu des éléments liés à la société, mais on pourrait en dire beaucoup plus. Vous avez peut-être remarqué, mais on est quand même dans une société, c'est un peu bête à dire, mais qui est dans le cul de la performance et on est tous plus ou moins des hyperactifs. Notre société a tendance quand même à créer beaucoup d'isolement social, une forme d'égocentrisme dans nos fonctionnements. Bon, c'est pas, je ne fais pas un jugement de la société, mais c'est des choses quand même qu'on peut relever. Et puis des aspects aussi autour de la sédentarité par rapport au rapport au corps, le loisir sans détente. Un aspect qu'on voit aussi souvent, nous, c'est l'absence de, enfin, l'excès de stimulation, notamment avec le rapport aux écrans. Quand on carbure à l'écran déjà la semaine, si on en rajoute le week-end, on ne peut pas dire que c'est la détente. Les entreprises elles-mêmes ont une pression forte économique et sociale. Elles se réorganisent fréquemment. Il y a des phases d'adaptation rapides et répétées. Et puis les nouvelles technologies, donc NTIC, c'est les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui sollicitent tout le temps, notamment dans la sphère privée, grâce aux mails qui continuent à affluer sur votre boîte. Le style de management a beaucoup évolué, donc depuis 20 ans également. Il y a beaucoup plus de mise en concurrence entre les salariés. Il y a une responsabilisation excessive avec une baisse de l'accompagnement des salariés. Beaucoup moins de ce signe de reconnaissance au sens de validation des comportements, de reconnaissance aussi tout simplement de la valeur de la personne dans ce qu'elle a produit comme travail. La logique qu'on entend de plus en plus, c'est faire plus avec moins. Logique folle, bien sûr. Et aussi, ce qu'on observe nous souvent, c'est qu'il y a une inaction face aux tensions, aux conflits relationnels. Les managers, bien souvent, malheureusement, moi j'ai envie de dire, laissent pourrir certaines situations qui, au début, ont l'air bénignes, mais avec le temps, ben, n'arrangent rien. Voilà. Et les métiers qui ont changé, l'intensification des rythmes de travail, des tâches nombreuses, polyvalentes, développement des sociétés de services aussi, qui font que beaucoup de gens sont très impliqués émotionnellement dans ce qu'ils font, ne serait-ce qu'avec le contact client qui devient de plus en plus prégnant dans beaucoup de métiers. Voilà. Donc ce qui fait aussi, voilà, sentiment d'être noyé, sentiment d'isolement, d'absence de soutien, d'absence de reconnaissance, d'injustice, tout ça c'est des mots qu'on entend. Pour être rapide aussi, le burn-out n'est pas la dépression, mais il peut le devenir, on va dire ça comme ça. Donc le burn-out c'est d'abord un sentiment, une sensation de fatigue très forte liée à une surcharge professionnelle. Vous allez voir que les symptômes physiques sont très nombreux, mais bien sûr que si on ne fait rien, ça peut évoluer vers une vraie dépression. Et la dépression, considérée comme telle, c'est il y a un sentiment de fatigue. On a des gens qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à se lever du lit. On peut avoir cet élément-là en commun, mais il y a avant tout une désespoir total, une perte de l'élan vital, un vrai ralentissement du psychisme et du corps. Ce qu'on n'a pas toujours chez quelqu'un en burn-out, qu'il faut même des fois calmer, tellement la tête va encore très vite, paradoxalement. Voilà. C'est pas si simple en tout cas. Mais dans les deux cas, on a fait la même chose à gauche et à droite, c'est qu'il y a un risque de rechute s'il n'y a pas de prise en charge, ce que nous on va vous expliquer après, une vraie prise en charge de fond pour aller vers un nouvel équilibre. Et de toute façon, voilà, il faut travailler des thèmes très précis, enfin, qui restent larges, mais pour nous sont précis. Donc pour un burn-out, il faut forcément passer par l'analyse de la relation au travail, la relation à l'effort, la notion d'engagement. Et pour une dépression, peut-être plus un retour complet sur la vie entière, la vie affective, voire même l'enfance, ce qui n'est pas nécessaire forcément pour une prise en charge du burn-out. Voilà, donc la prévention, on va redévelopper tout ça, prendre conscience de ses limites, veiller à maintenir son équilibre entre les stress et les ressources, se ressourcer donc, et il y a plein de techniques à développer, réinvestir un travail dans un sens et une qualité préservée, on va dire, et remettre de toute façon le travail peut-être à sa juste place. Voilà. On fait une pause sur la théorie, on va passer, et je vous demande vraiment d'apprécier ce que vous allez entendre, parce que c'est très courageux de leur part, donc on va passer au témoignage. Donc nous avons 4 témoins, qui ont beaucoup, voire plus que beaucoup d'émotions, bien sûr, à venir parler d'eux. J'imagine que vous comprenez que ce n'est pas une chose évidente. Donc je les remercie d'avance. Et puis on va les laisser parler. On reviendra, nous, peut-être sur des aspects de la prise en charge. Et donc, comme disait Mme Lanoir, si vous avez des questions à leur poser, ce sera la fin. Merci.